Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux du jeudi, esprits créateurs, créatifs, farceurs et festifs, nonchalamment votre oreille a ripé sur l'onde curieuse et vous voilà embarqués pour une bonne demi-heure d'émission autour de la création. La vie n'est-elle pas bien faite ? Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'archéologie expérimentale en se demandant s'il est possible de retrouver les gestes de création de nos ancêtres. Nous en parlons à l'occasion de Samonios, la fête de la métallurgie antique, qui aura lieu ce week-end à l'archéosite Randa Ardesca de Saint-Alban-Auriol. Et pour répondre à nos questions, deux invités, Guillaume de l'archéosite et artisan verrier également. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et Marlène, archéologue.
Bonjour.
Bonjour Marlène. Mais avant, quelques nouvelles du monde ardéchois. Cela ne vous aura pas échappé si vous ne vivez pas dans une grotte ou sur Mars et si vous recevez quelques informations du monde. Une partie de la population s'apprête à fêter...
Samonios.
Ah ouais, Samonios. Mais Halloween ! Halloween ! Mon Dieu, si tout le monde fêtait Samonios. Mais certains fêtent Halloween, qui est une aubaine pour les faiseurs d'événements et de marchandises. D'autant plus que ça tombe pendant les vacances, donc pas mal de manifestations sont prévues sur ce thème, toute cette semaine, voire même pendant un mois. Alors je prends un ton qui peut paraître critique, mais il y a des choses qui sont très bien, hein, qui sont proposées. Je me pose quand même juste une question aujourd'hui. Si Halloween, c'est justement l'opportunité pour apprendre à se faire peur de manière cadrée, ce petit frisson rassurant, parce qu'on sait que ça va avoir une fin, une fête d'ailleurs qui s'est épanouie justement dans nos sociétés préservées, pour pimenter un petit peu nos existences, aujourd'hui, je me dis, il va falloir quand même déployer des trésors d'imagination perverse pour surpasser la réalité. Hein ? Est-ce qu'une citrouille tailladée peut nous faire peur ? Question qui reste en suspens, je vous la soumets. Ou alors oui, si l'imagination s'invite, comme toujours, hein, l'imagination a une force inestimée. Ou alors, peut-être, on en a d'autant plus besoin aujourd'hui pour se libérer de nos peurs quotidiennes et faire jouer à fond la catharsis, se purifier de toute la violence existante en la rejouant ou en jouant avec. Question. En tout cas, parmi toutes les initiatives, citons la Boom d'Halloween, j'adore, la Boom d'Halloween animée par le DJ Dave Knight pour les 6-11 ans, aujourd'hui au foyer municipal de Bourg-Saint-Andéol, à 14h et à 16h30. Désolé si vous écoutez la rediff, c'était tout à l'heure, mais donc la Boom d'Halloween à Bourg-Saint-Andéol, où il y a aussi une murder party. J'adore, ça tombe à pic, c'est parfait dans cette... Tiens, si on faisait une petite murder party au château des Roures à la Bastide de Virac. C'est un jeu d'enquête grandeur nature pour résoudre le mystérieux meurtre du boulanger du château. Et ça, c'est tous les jours pendant les vacances, c'est-à-dire jusqu'au 5 novembre de 13h à 17h. Face à l'horreur, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Eh bien... voir qu'il y a de l'espoir, par exemple, parce qu'il y a du courage ou de la mobilisation pour faire avancer les choses quelquefois. Ce soir, par exemple, jeudi 26 à 18h, à la salle du caveau des vignerons de Montfleury, l'association IACA propose la première des trois conférences qu'elle a programmées pour cette fin d'année. Et cette conférence s'appelle « Du fauteuil roulant au Mont-Blanc » et elle sera présentée par Sylvie Samicia Umbauer. Et alors Sylvie Samicia Umbauer, elle avait tiré un livre de son expérience qui s'appelle Impatiente, livre qui a reçu un prix, le prix du jury Terre d'ailleurs. Et ce qui lui est arrivé à Sylvie, c'est qu'elle faisait de la moto, elle a eu un accident, elle est restée pendant une semaine dans le coma, elle se réveille paraplégique. Et les médecins lui disent « Ok, ben tu ne marcheras plus ». Et elle répond « parle toujours, je vais aller sur le Mont Blanc. » Et ce qu'elle raconte, c'est son histoire. Et la conférence, ce sera donc son histoire, qui est une histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, ou plutôt comment on va au-delà de soi, et comment on y croit, comment on travaille pour. Et c'est donc ce soir à 18h à la salle du caveau des vignerons de Montfleury. Un petit contretemps de ma faute. Pour aller mieux, il y a là aussi l'engagement collectif. Demain, donc vendredi à 20h30 à Montpezat-sous-Bozon, au gymnase intercommunal, c'est les filles, c'est les seniors filles du club de basket d'Aubenas qui se proposent de mouiller le maillot et de jouer contre ou avec les roses de Montpezat. Alors les roses de Montpezat, c'est n'importe qui. Donc vous, Marlène, si vous voulez jouer contre les filles de l'US basket de d'Aubenas, bah c'est demain, 20h30. Toutes les filles donc de plus de 16 ans, c'est pour le gabarit, peuvent s'inscrire. Et c'est une opération donc, qui est proposée par la mairie d'Aubenas avec le club d'Aubenas et celui de Montpezat-sous-Bozon. Donc une sorte de tournoi de basket à partir de 20h30. Vous l'aurez compris, donc c'est dans le cadre d'Octobre Rose. Hein. L'entrée est à 10 euros, entièrement reversée à la Ligue contre le cancer. La soirée commence un peu avant, vers 18h30. Il y a une animation musicale avec le groupe Expression. Évidemment, à boire et à manger, je vous le répète, à partir de 18h30. Il y a une petite buvette, la petite restauration. Et puis aussi les praticiennes du centre de soins de Montpezat qui seront là pour parler justement de du cancer du sein et du dépistage. Donc c'est demain soir à Montpezat-sous-Bozon. La petite parenthèse poétique qui dégrise, qui déviolente, qui humanise un peu nos vies, ça aussi ça peut faire du bien. Et c'est demain sur la place du Château à Aubenas à 16h30 pour l'inauguration des Vigilants. Les Vigilants, c'est les sculptures de Rachid Koraïchi qui sont installées depuis quelques temps sur la place, que vous avez peut-être déjà vu, ces Vigilants. Trois sculptures en bronze, trois signes personnages qui représentent les trois amis et complices de l'artiste Rachid Koraïchi. C'est l'architecte André Ravero, la photographe Manuel Roche et l'écrivain Pierre Rabhi. Tous les trois sont des figures indissociables de l'Ardèche et qui sont tous les trois liés par leur amour du Sahara algérien. Donc l'artiste Rachid Koraïchi sera là pour l'inauguration et le dévoilement de la petite plaque qui va bien pour parler de une petite plaque explicative. Donc ça, ce sera à 16h30 et après 18h, zou, tout le monde au cinéma, le navire, pour la projection du film « Tu manques même à mon ombre » en présence du réalisateur Laurent Boulard et de l'artiste lui-même. Ce film revient donc sur le parcours de Koraïchi, son œuvre universelle et engagée qui foisonne et qui trouve toute son inspiration aux origines de la culture arabo-musulmane. Enfin, si l'on parle de paix et d'appel à la paix, je signale le rassemblement prévu samedi à 11h30 sur l'Agora d'Aubenas, à l'initiative de plusieurs associations, notamment l'association France-Palestine Solidarité, la Libre Pensée d'Ardèche et de Drôme, le MRAP ici, la CGT, le Sud, le PC aussi, FSU Ardèche. Je cite simplement un extrait de l'appel de ce rassemblement, donc prévu samedi à 11h30 sur l'Agora d'Aubenas. Il n'y aura pas de paix sans perspective politique. Il n'y aura pas de perspective politique sans que des sanctions ne soient prises contre Israël pour qu'il mette fin à ce régime d'oppression et qu'il se conforme au droit international et aux résolutions de l'ONU, notamment la fin de l'occupation, de la colonisation et du déni des droits du peuple palestinien. On rappelle quand même que il y a eu une condamnation des crimes commis par le Hamas, mais il n'empêche qu'il y a un appel à la paix et un appel à la reprise du processus de paix. Bah tiens, avec tout ça, si on reparlait d'Halloween, ou alors pour se détendre un peu, si on écoutait un bon vieux rock'n'roll. qu'il est long le chemin vers le succès. Si tu veux jouer du rock and roll, it's a long way to the top if you wanna rock and roll, d'ACDC, un titre de 1975 choisi par Guillaume, notre invité de Randard Esca. Un petit mot sur ACDC.
C'est un excellent morceau. En plus, il y a de la cornemuse dessus.
En plus, il y a de la cornemuse. Mince, je n'ai pas suffisamment prêté l'oreille. Merci à tous les deux, Marlène et Guillaume, d'être ici avec nous. Et puis, bien sûr, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Sylvain, bien aux sûr. Manettes, à la réalisation. Merci, merci, Sylvain, d'être
mais
là.
De rien, salut.
On se pose la question, donc, à l'occasion de Samonios, est-ce qu'on peut retrouver les gestes de nos ancêtres? Mais avant cela, Samonios. Samonios, la fête qui va avoir lieu à Saint-Alban-Auriol ce week-end, qu'est-ce que c'est?
Alors, qu'est-ce que le Samonios? Le Samonios, c'est l'ancêtre de la festivité d'Halloween à la période des Celtes. C'est une des quatre grandes fêtes celtiques qui va marquer le passage des saisons. Et là, on est évidemment sur le passage à la saison hivernale où tout le monde va se protéger un peu au chaud dans ses différents habitats. C'est une festivité qu'on fait depuis 10 ans, parce que cette année, on fête les 10 ans de l'archéocyte. On change de thème tous les 3 ans. Et cette année, c'est notre dernière année sur le thème de la métallurgie. Donc il va y avoir énormément d'animation et de travail sur tout ce qui concerne le métal. Hein. Il va y avoir des forgerons qui vont être sur place, il va y avoir de l'artisan bronzier, il va y avoir un orpailleur, il va y avoir de la fabrication de cottes de mailles. Et on a des tas d'animations à côté, hein, que ce soit de la vannerie, de la cuisson de poterie, de la fabrication de poterie. Il y a beaucoup d'artisans qui sont présents pour ce week-end-là.
Et qui viennent de partout en France, presque.
Bien sûr, on a des artisans qui viennent de partout, hein, de Bretagne, de Lyon, d'un peu tout le territoire. Et on a aussi plusieurs troupes donc de reconstitution historique là, qui viennent cette année. Donc en final, c'est les mêmes que ceux qui sont déjà venus l'année dernière. Donc on a nos fidèles amis des somatophylaques, donc les guerriers grecs qui viennent de Massalia, avec qui on travaille depuis 5 ou 6 ans. Et cette année, on a un très grand renfort aussi de Gaulois qui viennent de Picardie, avec l'association des Ambiani, qui est une des plus anciennes associations de reconstitution historique du territoire, et qui sont encore actifs aujourd'hui, et qui il y en a déjà quelques-uns qui sont déjà arrivés sur le site, et le reste va arriver demain, mais on va avoir une belle quantité de Gaulois présents pour ce week-end. Et
en point d'orgue
évidemment, c'est la fabrication d'une enclume, le projet un peu fou que nous avions lancé il y a un peu plus de 3 ans pour ce Samonios, c'était d'essayer de récupérer du minerai de fer local. Donc nous sommes allés à Saint-Paul-le-Jeune pour récupérer à peu près 200 kilos de minerai qu'il a fallu ensuite faire griller, réduire en petite poussière, transformer en petite galette. Et ensuite, là, on a fait venir nos camarades forgerons, donc Simon et Charles, qui eux sont bretons, qui sont de la West Side Team, et qui font ce qu'on appelle de la réduction de minerai. Donc on leur a fabriqué à chaque fois un bas fourneau, donc c'est une sorte de grande cheminée en argile, entre autres, et qui va permettre de transformer ces morceaux de fer en un bloc, pour ensuite pouvoir le transformer en lingot ou autre chose, pour pouvoir passer à la forge et là faire le travail des forgerons. Donc là on a déjà fait 3 réductions de minerai, donc on a 3 blocs qui existent, et cette année nos forgerons, ils vont essayer de forger, de rassembler ces 3 blocs pour qu'on puisse avoir la première enclume de la forge du village, qui sera donc une reproduction d'une enclume, alors pas tout à fait locale, hein, c'est un petit peu plus large, mais ça sera une petite enclume typique de ce qu'on peut retrouver à l'âge du fer. Donc ça, c'est notre grand thème de Samonios et de cette année, et notre grande action du coup d'archéologie expérimentale, qui est quand même le thème de la discussion du jour.
Là, on est en plein cœur. On est en plein cœur du thème. Donc, l'archéologie expérimentale, je pense que peut-être les auditeurs l'auront compris à travers cet exemple. Mais est-ce que Marlène, tu peux nous rappeler ce que c'est?
Alors, l'archéologie expérimentale, c'est une discipline qui vient de l'archéologie. Et grâce à l'archéologie, on va pouvoir eh bien, avoir de nouvelles informations sur les populations du passé en travaillant spécifiquement sur leur culture matérielle, c'est-à-dire tous les objets, toutes les constructions qui vont être mises en évidence dans le sol. Et ces objets et ces constructions vont amener des informations, mais vont aussi amener de nouvelles questions. Et pour répondre à ces questions, eh bien, certaines disciplines se sont créées au fil du temps, et notamment l'archéologie expérimentale, qui, au travers eh bien, de la reconstitution d'un objet ou la reconstruction d'un habitat, par les méthodes connues pour cette époque, par les matériaux connus aussi pour cette époque, eh bien, ça va permettre de pouvoir amener des nouvelles informations, donc de répondre à certaines questions ou eh bien, de mettre de côté certaines hypothèses qui ne sont pas spécifiquement en fait, recevables pour les chercheurs et pour les archéologues.
Alors là, je vous ai tous les deux sur le, autour du micro. Donc Guillaume, tu es artisan verrier notamment. Toi, tu es archéologue. Comment les deux travaillent ensemble? Est-ce que ça fonctionne bien, ou est-ce qu'il y a des petites réticences de la part des archéologues ou peut-être même des artisans? Comment ça se passe? Ah, la patate chaude.
Alors, c'est quelque chose qu'il faut nuancer et qu'il faut présenter sous différents facteurs. La discipline est une discipline qui, du coup, est à la fois récente et ancienne. Elle est née dans les années 90 et il y a eu un temps d'acceptation de la part, notamment des universitaires, qui trouvaient un intérêt distant au départ et qui progressivement, du coup, a été accepté. Et le plus grand exemple connu et probablement connu de la part des auditeurs, ce sera du coup le château de Guédelon, qui s'illustre énormément sur cette archéologie expérimentale, la reconstitution d'un château fort du XIIIe siècle avec les méthodes et les matériaux de l'époque. Et progressivement, en fait, grâce à cette acceptation, tout un tas d'exemples d'archéologie expérimentale et de reconstitution se sont développés. D'un point de vue archéologique, avec des problématiques et des questions archéologiques dans laquelle les artisans ont pris part, puisqu'il a fallu, par exemple, pour Guédelon, des tailleurs de pierre, des charpentiers, etc., etc. Et puis, il y a d'autres, initiatives qui ont été prises, là, plutôt par des artisans qui voulaient retrouver des gestes, qui voulaient pratiquer des choses, je pense, plutôt en lien avec de l'artisanat passé. Et d'autres initiatives qui se sont faites à côté, pas spécifiquement en lien direct avec l'archéologie, même si l'archéologie est très importante, puisque ce sont grâce à toutes les informations qui sont récupérées par les archéologues que tous ces artisans-là aussi ont pu développer leur démarche. Et je pense que du coup, Guillaume sera plus à même de compléter cette information-là.
Oui,
Guillaume. Ouais. Marlène a dit beaucoup. Effectivement, l'archéologie expérimentale va nous apporter beaucoup de choses qui nous manquent sur l'archéologie, surtout sur des périodes sur lesquelles on travaille, avec la période celtique avant l'arrivée romaine. On a beaucoup de manques et c'est sûr que ces techniques vont nous apporter beaucoup. Alors après, il faut savoir que sur le territoire, on a déjà beaucoup de retard. Il est commun de dire que en France, on a à peu près 40 ans de retard au niveau de l'archéologie expérimentale par rapport à nos voisins anglo-saxons, germains, scandinaves. Et encore une fois, de toute façon, l'archéologie expérimentale, c'est deux grands facteurs à prendre en compte, c'est du temps et des financements. Donc le temps, il peut être trouvé entre guillemets plus ou moins par n'importe qui. Les financements, c'est toujours plus compliqué. Et c'est sûr qu'en France, c'est toujours très dur. Et moi qui travaille.
Une réticence par rapport au monde académique, c'est ça?
Ça revient un petit peu à ce que Marlène disait tout à l'heure. Il faut du temps pour que des nouvelles méthodes arrivent. Et puis après, encore une fois, faut pouvoir réussir à travailler ensemble. En sachant que déjà, du côté des archéos, c'est pas toujours copain-copain. Du côté des artisans, c'est aussi le même problème. Mais après, là, il faut pouvoir rassembler de l'artisan et de l'archéologue pour pouvoir travailler et avoir un résultat, une hypothèse en tout cas de résultat qui est intéressante et cohérente.
Justement, vous êtes là tous les deux. Est-ce que vous avez travaillé ensemble? Est-ce que vous travaillez ensemble? Et sur quoi?
Alors, on travaille ensemble sur pas mal de sujets divers d'archéologie expérimentale liés à l'archéosite, liés à Randar Desca, beaucoup là-dessus. Comme disait tout à l'heure Marlène, il y a des choses à développer encore beaucoup, ne serait-ce que pour nous. Et c'est, on va dire, le côté artisanal est plutôt bien placé chez nous. On n'a pas trop de soucis là-dessus. Mais c'est plus le côté, du coup, ce que vont pouvoir nous amener nos petits camarades archéologues avec des prises de notes, des prises de température, des mesures, des protocoles qui sont mis en place. Et c'est des choses qu'on a pu mettre en place déjà il y a quelques années avec Marlène et d'autres archéos qui viennent régulièrement sur le site, où on essaye maintenant de noter de tout ce qui est fait, les moindres actions, les moindres mélanges de torchis, les moindres constructions en bois ou en pierre. On essaye de tout noter le plus possible pour avoir des informations, pour pouvoir ensuite faire des comptes rendus qui nous seront utiles à nous, et après, pourquoi pas développer des thèmes plus précis. L'exemple de la métallurgie avec cette enclume, c'est un projet d'archéologie expérimentale qui est lancé sur un certain temps, et qui, forcément, c'est des finances, des choses à prendre en compte, et que nous, par exemple, on n'est pas spécialement sponsorisé par des institutions ou autres. Donc les finances qu'on peut mettre là-dedans, c'est vraiment celles qu'on arrive à avoir et qu'on arrive à injecter.
Bon, ce que tu disais sur l'apport de l'archéologie pour vous, par exemple là sur cet exemple, sur ces exemples précis, c'est une méthodologie.
Tout à fait.
C'est une méthodologie, et je compléterai aussi par c'est des informations. C'est-à-dire que le rôle de tout un chacun, c'est que moi aussi derrière, je vais pouvoir être à même d'amener justement toutes ces informations qui vont être nécessaires à la pratique et à nos expérimentations. Compléter là où justement l'expérience et la formation permettra de répondre à des questions qui vont se poser aussi de leur côté sur de la terminologie, du vocabulaire, des choses comme ça.
Est-ce qu'il y a des expérimentations qui ont donné des résultats auxquels vous ne vous attendiez pas? C'est-à-dire, est-ce que il y a de l'archéologie expérimentale qui a remis en question vraiment ce qu'on pensait jusqu'alors, ou pas, ou c'est plus de l'ordre de la nuance?
C'est toujours dans l'ordre de la nuance.
Certes, c'est un spectre.
Alors, c'est un grand spectre. En fait, l'archéologie expérimentale va... grâce à l'archéologie, on a quand même beaucoup d'informations. Il va toujours y avoir des manques qui vont être très ciblés, très 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 précis. Généralement, l'archéologie expérimentale va répondre à ça, parce qu'en fait, si vous voulez, la nuance, la marge de manœuvre, elle est quand même assez fine. Et entre ce qu'on va sortir du sol, les informations qu'on va qu'on va traiter et la connaissance qu'on va en retirer, derrière va donner une expérimentation qui va avoir une marge de manœuvre qui va être très très fine.
Et par exemple,
par exemple sur la construction d'un bas fourneau, donc la fameuse cheminée dont parlait Guillaume tout à l'heure, on va avoir des informations qui vont être sorties de la fouille archéologique, quelle sera la terre qui va être utilisée pour construire cette cheminée, quels seront les bois qui vont être utilisés pour faire le feu à l'intérieur du cheminée, quel type de fer on va avoir pour faire minerai de fer pour faire la réduction. Donc toutes ces informations, on va les emmagasiner. Et puis dans l'expérimentation qui va être de reconstruire par exemple un bas fourneau, on va se dire, on a telle terre, très bien. Cette terre-là, si je suis l'information pour la construction, en fait, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que cette terre-là, elle est présente en fait, mais en même temps, dans mon résultat de construction, elle colle pas. Donc elle n'adhère pas, ou du coup, elle permet pas de monter la cheminée parce que cette cheminée ne tient pas. Donc du coup, il y a un paramètre dedans qui n'a pas, dont on n'a pas l'information dans la fouille, et qu'il va falloir trouver et expérimenter pour savoir qu'est-ce que c'est. Donc cette marge de manœuvre, elle est fine. Et à chaque fois, en fait, ça permet d'aller un petit peu plus loin. Ça ne fera pas de grandes remises en question incroyables comme la découverte des momies ou des choses telles qu'on peut l'avoir dans la culture populaire, mais ça va permettre d'aller un petit peu plus loin. Et plus on va aller loin, plus on va pouvoir en fait progresser.
Je suis assez d'accord avec ce que dit Marlène, et en final, il faut prendre en compte que, alors sur ce thème d'archéologie expérimentale, ça fonctionne par élimination de l'échec. C'est-à-dire, on essaye de faire quelque chose, ça ne marche pas, on essaye de comprendre pourquoi ça ne marche pas, on essaye avec une autre façon, ça marche peut-être encore pas. Et en gros, on élimine au fur et à mesure ce qui fonctionne, surtout ce qui fonctionne pas. Et à un moment, on arrive à, c'est un terme que moi j'utilise beaucoup, c'est le terme de l'hypothèse. Parce que c'est pas parce qu'on arrive avec, par exemple pour moi mon travail sur le travail du verre antique, c'est pas parce que j'arrive à faire une reproduction d'une perle gauloise dans un four à bois avec des outils en fer à l'ancienne, que c'est spécialement cette technique. Mais en tout cas, c'est une hypothèse qui fonctionne, et comme dit Marlène, qui permet d'avancer d'un pas au fur et à mesure, et jusqu'à avoir du résultat, ou encore avoir du résultat, est-ce qu'on pourra dire un jour, c'était comme ça que ça se faisait ?
Jusqu'à écarter les hypothèses les plus farfelues.
Voilà, en fait, exactement.
Qui ne colle pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut, procéder de manière différente pour avoir et à obtenir un même résultat, et donc on ne peut pas déduire de ce résultat que c'est cette pratique qui a conduit à ça. C'est donc effectivement, à chaque fois revenir et réessayer.
Et après, on fait au plus simple, au plus pratique, au plus logique. Par exemple, moi, avec mon travail sur le verre, j'ai pas de formation de verrier. J'ai fait aucune école. Il y a trois écoles de verre qui existent sur le territoire. J'en ai fait aucune. J'avais un petit peu d'expérience artisanale en amont, mais pas sur le verre. Et j'ai croisé une fois en Scandinavie une vieille dame qui essayait sur un petit four en terre de faire des perles en verre. Et puis j'ai choisi de me lancer. Mais forcément, au début, il y a eu tout un travail de recherche à chercher les sources archéologiques, ce genre de choses, essayer de commencer à construire un four qui va fonctionner, d'avoir une soufflerie qui fonctionne, d'avoir le bon verre, et tout ce genre de choses. Et il m'a fallu déjà un an ou deux d'expérimentation à essayer de comprendre deux, trois choses et à déblayer un peu le terrain pour commencer à avoir des résultats. Et j'ai vraiment pu avancer quand j'ai rencontré par le biais de la FAV, c'est l'Association Française pour l'Archéologie du Verre, j'ai rencontré une archéo, Joëlle Roland, qui travaillait sur le verre celtique et qui s'était lancé avec deux artisans modernes, verriers, sur Paris, à essayer de faire des reproductions de bracelets en verre gaulois. Et du coup, là, on a un exemple parfait, un peu comme Marlène, d'une archéologue qui a ses bases archéologiques, son savoir-faire là-dessus, ses protocoles et tout ce genre, et ses sources, mais qui est suffisamment ouverte et qui, pour comprendre, a voulu travailler avec d'autres artisans. Donc là, elle a travaillé avec des artisans qui travaillaient de techniques modernes. Ils ont eu des résultats intéressants, d'autres moins. Mais c'est après, en se rencontrant, par exemple, on a pu... moi, j'ai pu énormément progresser sur ce qui me manquait au niveau des bases archéologiques et, des protocoles de mise en place de copies ou de reproduction de pièces. Mais elle aussi, ça l'a vachement aidée, parce qu'elle a pu se rendre compte de pas mal de choses sur le fait que, justement, je travaille sur des fours à bois à l'ancienne et je suis pas les règles... du verre, entre guillemets, obligatoire aujourd'hui. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais je suis pas pollué par l'apprentissage moderne du verre. Ce qui fait que je vais vraiment aller au plus simple, au plus pratique, au moins fatigant, au plus économique, en prenant toute chose en compte, parce que c'est facile aujourd'hui d'utiliser un outil en fer. Mais nous, on voit bien depuis quelques
encore
années.
Voilà,
faut le faire, faut récupérer le minerai, faut faire de la réduction de minerai, faut faire un lingot, faut l'amener à la forge. C'est toute une démarche qui prend beaucoup de choses en compte pour avoir un résultat.
Et qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'artisan quand on parvient à renouer avec des gestes qui peut-être étaient des gestes ancestraux ? Est-ce qu'on ressent un plaisir particulier ?
On a forcément un petit plaisir intéressant qui est retrouvé, déjà avec le fait que ça fonctionne. C'est quelque chose de toute bête, mais réussir à monter un four à bois à tirage naturel à 1100 degrés, c'est déjà une étape assez importante à faire. Et déjà réussir à faire ça, c'est pas mal. Après, oui, réussir à avoir une gestuelle intéressante, à faire une reproduction d'une pièce qui est vraiment très très proche du modèle archéologique. Évidemment, il y a une petite fierté qui arrive, ça c'est une évidence. Après, c'est encore plus rigolo de pouvoir travailler, par exemple, sur du verre archéologique.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que nous, la grande partie du verre qu'on utilise, c'est qu'on commande à un verrier qui nous fait des copies de verres qui ont été retrouvés par les archéologues lors de fouilles et qui... en récupérant ce verre, ils vont faire des analyses, on va pouvoir avoir la composition du verre. Et en travaillant avec les archéologues, bah, moi, petit artisan, c'est le genre d'élément que je peux récupérer avec ce lien-là. Et bah, ces compositions de verre, je les envoie à un autre artisan qui me fabrique du verre. Mmh. Donc je travaille vraiment là avec la même chose. Et c'est assez rigolo parce que pour avoir pu déjà essayer de travailler sur un bloc de verre de l'épave des îles Sanguinaires en Corse, dans le golfe d'Ajaccio, qui était du verre syro-palestinien à destination du marché celtique, 3e siècle avant Jésus-Christ, mais c'est sûr qu'en l'essayant, bah, c'est un peu le même qu'à la maison, donc ça marque moins. Mais c'est quand même du verre qui a quelques milliers d'années, donc c'est intéressant à utiliser.
Dernière question pour vous deux, quelle est la part d'imagination que on peut se permettre en archéologie et qu'est-ce que l'imagination fait à la poursuite de la connaissance?
Cette part-là, elle peut être plutôt infime, parce que cette imagination doit toujours être logique et pertinente. On ne peut pas, en fait, prendre une initiative qui sera à la totale opposée de ce qu'on va avoir, en fait, en trace. Donc, si, en fait, dans un verre archéologique, on nous dit que la composition, elle est faite de telle sorte, on ne va pas rajouter un autre élément en plus, juste parce qu'on on peut se dire « Ah, ben, je préfère cette couleur » ou « Ah, je préfère que ça rende de telle façon », tout simplement parce que ça n'est pas le cas, on n'en a pas trouvé de trace, donc même si on l'imagine, en fait, que ça pourrait être intéressant, on ne va pas le tester. Cette imagination, elle va aussi porter sur des expériences passées, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit en lien avec quelque chose qui a déjà été fait et qui nous ait montré des résultats. Y a toujours une part d'improvisation, mais infime, là où on se dit « Ah, en fait, ça va être... je n'ai pas essayé ça. Je suis en train d'utiliser plein de terres différentes pour construire ma poterie. On a découvert une nouvelle argile. Avec cette argile-là, on va essayer de faire un pot. » Mais si on n'a pas trouvé cette argile-là dans une quelconque fouille archéologique, est-ce que ça va avoir un intérêt? Parce qu'au final, personne n'aura construit un pot avec ça, aura fabriqué un pot avec ça. Ça veut dire que s'ils n'ont pas fabriqué de pot avec ça, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être avancées. Elle n'était pas accessible, elle n'était pas intéressante pour pouvoir fabriquer de la poterie, etc. etc.
Oui, mais bien sûr, mais l'imagination au service de connaissances. Mais il faut ouvrir et c'est une hypothèse là aussi, mais ouvrir des possibles pour justement tenter des choses.
Bien sûr, il faut ouvrir des possibles, et ces possibles, en fait, ils s'ouvrent par l'humain, et par, en fait, l'intérêt que chaque être humain va porter, en fait, à cette découverte-là. Et c'est ce regard-là qui va amener de la diversité. C'est le regard de tous ces gens différents qui vont vouloir intervenir, qui vont voir, tout simplement, le sujet d'un angle différent. Quand on regarde une fleur, si on est 10 autour de la fleur et qu'on a tous un angle différent, on va avoir tous un avis différent. Mais ajouter en fait tous ces avis les uns après les autres vont faire qu'on va avoir une vision de la fleur qui sera extrêmement complète et globale. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans l'archéologie et dans l'archéologie expérimentale, c'est que plus on sera plusieurs à faire des choses dessus, plus on va communiquer dessus et plus on va avoir en fait une vision globale sur un sujet. Et c'est ça qui est cette part d'imagination et qui va amener de la diversité et de la nouveauté.
Merci Marlène. Je pense que c'est une belle, non pas une belle conclusion, une conclusion pour le moment. On vous donne rendez-vous ce week-end donc, pour Samonios. Ça commence à quelle heure?
À 11h.
Ça commence à
11h à 22h le samedi et 11h à 18h le dimanche, sous un soleil magnifique. Donc venez nombreux et nombreuses.
Tout en prenant des vêtements chauds tout de même.
Tout de même, les nuits sont fraîches, mais c'est pas pour la pluie, c'est parce que juste les soirées sont fraîches. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés dans ce studio pour nous parler de l'archéologie expérimentale. Merci Sylvain. Évidemment, je ne t'ai pas prévenu, mais tu sais que c'est à toi de donner le programme.
Non, ce n'est pas à moi.
Ah,
par contre, je sais qu'à chaque fois, je le donne.
Ouais. Alors, à 15h, il y a le Telex. À 17h,
la rediffusion. À 19h, nous retrouverons Éclectrique. Et à 20h, ce sera la playlist de mon pote.
Super. Merci beaucoup Sylvain. Et nous, on se retrouve pour une prochaine Onde Curieuse lundi. Et demain, à midi 10, c'est Cinémascope. Ciao !